La répartition s'est faite aujourd'hui avec plus de rapidité que d'habitude. Nous pouvons nous en féliciter. Plaçons-nous devant le Seigneur pour cette heure d'étude qu'il nous accorde. Notre Dieu, notre Père, c'est dans tes mains que tous les jours à venir se trouvent. Nous ne sommes pas capables de retenir notre souffle plus que quelques instants, mais tu es le Maître, tu es le Seigneur de notre vie à chacun et de toute l'histoire du monde. Tu as bien voulu nous révéler les points principaux de tes desseins en notre faveur et en faveur de ce monde que tu as créé. Nous te demandons de nous aider à bien recevoir ce que tu veux nous apprendre. Veuille nous guider dans l'étude de ta parole, au nom de Jésus notre Seigneur, et afin que cette espérance que ta parole suscite en nous contribue à notre sanctification, que selon que nous avons cette espérance, nous nous purifions comme le Seigneur Jésus lui-même est pur, sachant que nous lui serons rendus parfaitement semblables lorsque nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, Seigneur, c'est dans la joie et la reconnaissance, au nom de Jésus, que nous nous présentons à toi. Amen. Nous avons examiné plusieurs des points importants de la doctrine des temps qui viennent, de la fin du monde et des thèmes associés, tout ce qui est l'objet de notre espérance. Nous avons parlé du retour de Jésus-Christ, de ses préludes, de la résurrection, du jugement. Et il nous reste encore quelques points à aborder. Aujourd'hui, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous devons examiner ce qu'il en est du règne. Et tout de suite, je donne un coup de balayette pour éliminer une fausse difficulté qui pourrait arrêter certains. Faut-il dire règne ou royaume ? Y a-t-il une différence entre règne et royaume ? Dans les textes de la Bible, dans les textes du Nouveau Testament en particulier, en fait, c'est le même mot dans l'original que les traducteurs vont rendre soit règne, soit royaume, pour le grec, des auteurs que Dieu a inspirés. Ainsi, même s'il y a une petite différence entre règne et royaume, nous n'avons pas à nous en soucier, c'est un même mot dans l'original. Laissons les spécialistes débattre sur la meilleure traduction entre les deux. C'est règne ou royaume qui est le sujet que nous devons aborder aujourd'hui. Une difficulté plus considérable nous arrête. Si nous ratissons les textes bibliques qui parlent du règne ou du royaume, nous nous apercevons que certains d'entre eux nous présentent ce règne comme un règne éternel depuis toujours et à toujours. C'est par exemple le message d'un des psaumes du règne de l'Éternel, le psaume 93. S'écrit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leur grondement, plus que la voix des grandes eaux, des magnifiques vagues de la mer, l'Éternel est magnifique dans les lieux élevés. » Les deux versets qui concernent les grandes eaux font sans doute allusion au déluge. Un autre psaume, le psaume 29, dit que l'Éternel siégeait en roi au temps du déluge. Le déluge, l'immense inondation, les pluies torrentielles peuvent donner l'image d'une créature révoltée contre Dieu. Et le psaume, ou les psaumes affirment que Dieu régnait en maître souverain sur toute cette création déchaînée, au temps même du déluge. Il est de tout temps le roi. Mais d'autre part, nous le savons bien, le règne nous est présenté comme un objet d'espérance. Or, dit l'apôtre Paul, ce qu'on espère, on ne le voit pas. Ce que l'on voit, on ne l'espère plus, c'est là. C'est dans les chapitres 8 de l'Épître aux Romains qu'il souligne ce caractère futur de l'objet d'espérance. Nous prions dans la prière que le Seigneur nous a apprise que ton règne au royaume, que ton règne vienne. Il est manifeste que le royaume est aussi une réalité à venir, présentée comme future dans les textes de la Bible. Et puis, pour compliquer les choses, il y a encore d'autres passages qui suggèrent que le royaume est en train de s'instaurer, que dans le cours de l'histoire, ce royaume se fraye la voie, s'établit, se construit, s'étend, ce qui fait qu'on a en quelque sorte trois sens qui paraissent difficiles à mettre ensemble du même mot règne ou royaume. En fait, je crois que la difficulté se résout assez facilement. Que pour comprendre ce qu'il en est, il faut se rappeler que la volonté de Dieu est mystérieusement double, d'après le témoignage de l'Écriture. Dieu veut dans des sens qu'on ne peut pas confondre, qu'il faut bien distinguer, sinon tout se mélange dans la Bible et on n'y comprend plus rien. Il est dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et il est dit aussi que Dieu fait miséricorde à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut. Si vous donnez au mot vouloir exactement le même sens, c'est contradictoire. Or Dieu ne peut pas se contredire, donc il faut donner des sens différents. Il faut reconnaître qu'il y a deux sortes, si vous voulez, deux exercices de la volonté divine. Il y a la volonté qu'on appelle décrétive, la volonté de Dieu dans son plan. Ce qu'il décide de laisser arriver, de faire ou de laisser arriver. Tous les événements se trouvent inscrits dans ce plan. Le premier chapitre de la première épître de l'épître aux Éphésiens dit qu'il opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Même l'œuvre des méchants, qui insultent Dieu, est inscrite dans son plan. Souverainement, il la permet. Donc il y a la volonté décrétive, gouvernementale, si vous voulez, de Dieu, qui embrasse tous les événements, et puis il y a sa volonté qu'on appelle parfois préceptive, ou volonté de désir. Il y a ce que Dieu souhaite. Il ne souhaite que le bien, et non pas ce mal qui pourtant est dans son plan parce qu'il le permet. Il y a sa volonté de désir et sa volonté de commandement, ce qu'il nous commande de faire. Quand nous violons ses commandements, nous bafouons la volonté divine, et en même temps c'est dans le plan de Dieu quand même. Mystérieusement, l'œuvre des méchants est inscrite dans le plan de Dieu. C'est révélé dans la Bible. Et c'est cette distinction, donc, quant au vouloir de Dieu, qui nous explique que le règne, qui en fait est très proche de la réalisation du vouloir de Dieu, régner c'est réaliser ce qu'il veut, que le règne lui-même se différencie en un règne éternel, le règne au sens A que j'ai évoqué, qui embrasse tous les événements. Le règne de Dieu au sens A est celui de son plan qui embrasse toute chose depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu veut dans le sens de son décret, ce qu'il décide ou laisse arriver. Il y a ce règne de Dieu, c'est le règne du psaume 93. Mais il y a aussi le règne final, le règne à venir, qui est le règne où la volonté de désir de Dieu, la volonté de ses commandements sera pleinement réalisée. Elle ne l'est pas pour le moment. Cette volonté de désir de Dieu est contrecarrée par la permission que Dieu donne mystérieusement à la créature de continuer à se rebeller contre lui, à transgresser ses commandements, à bafouer son nom, etc. Dieu règne dans ce sens que rien n'échappe à sa maîtrise souveraine, rien ne se passe en dehors de son plan, même pas la chute d'un moineau, dit Jésus, même pas la chute d'un moineau. Mais il ne règne pas dans le sens que ce qu'il souhaite serait entièrement réalisé. Au contraire, le monde entier gît dans le mal, il y a terriblement de choses sur la terre qui sont contraires à la volonté de désir et de commandement de Dieu. Et alors,
le règne au sens B,
le règne qui est encore futur, c'est l'état de choses où la volonté de tous les commandements divins, de tous les désirs de Dieu, sera réalisée pleinement. Et c'est d'ailleurs une correspondance qu'on voit très bien dans le Notre Père. Car en parallèle de la clause « que ton règne vienne », il y a « que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. Parmi les anges, les désirs de Dieu et ses commandements sont parfaitement respectés. Donc sa volonté de Dieu est réalisée dans le ciel. Mais elle ne l'est pas sur la terre encore. Et donc la prière « que ton règne vienne » et « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », c'est une seule et même prière en fait. Donc il y a le règne au sens B, au sens futur, et puis alors il y a, et c'est la grande révélation de la Bible, le message central, il y a l'œuvre que Dieu fait pour que ce règne au sens B, ce règne futur, se réalise. Dieu ne va pas le réaliser tout à coup comme ça, sans préparation, sans avoir rempli les conditions pour que ce règne parfait arrive. C'est le fruit d'une œuvre de l'histoire, d'une œuvre de Dieu dans l'histoire. Tout le sens de la venue de Jésus-Christ, c'est d'établir ce royaume ou règne de Dieu dans l'histoire, de susciter la dynamique, si vous voulez, qui va aboutir à ce règne parfait. Une œuvre de triomphe de Dieu sur le mal, de victoire sur le péché, qui est la contradiction du vouloir, de désir et de commandement de Dieu. Dieu réalise son règne parfait en notre faveur, et du coup, il fallait qu'il entre dans l'histoire pour triompher du mal, de façon que nous ne soyons pas nous condamnés, mais au contraire associés à son règne, intégrés à son règne parfait. Voyez. Et ça, c'est le royaume de Dieu, alors, au troisième sens, qui est celui de la prédication de Jésus, déjà d'ailleurs de Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est tout proche. Voilà le message de Jésus quand il commence à prêcher. Le royaume de Dieu est tout proche. Et puis même, vers la fin de cette période, il dit le royaume des cieux est au milieu de vous, ou à l'intérieur de vous, mais c'est sans doute du groupe. En sa personne, le royaume arrivait. Et vous vous rappelez ce que Jésus a répondu au larron, comme on dit, au bon larron, mais c'était surtout le larron repentant sur la croix. Ce brigand lui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui est une manière de lui dire « Le jour de mon entrée dans le règne, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'entre dans mon règne. » Et c'est bien ce que Dieu, d'ailleurs, a voulu montrer par beaucoup d'indices. Hein, la passion du Seigneur Jésus a eu, par dérision de la part des hommes, mais par volonté divine, une couleur royale. On l'a revêtu de pourpre, on lui a mis une couronne sur la tête pour se moquer de lui, mais c'était en même temps, dans le plan de Dieu, une manière de proclamer que son règne, effectivement, s'établissait par son sacrifice. Celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas été contents du tout, vous vous rappelez? Ils ont peut-être senti que Dieu faisait en sorte que la vérité soit proclamée, que Jésus entrait vraiment dans son règne. Alors ils ont été voir Pilate en disant « Non, non, il ne faut pas écrire ça !» Et Pilate a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Parce que c'était en quelque sorte conduit par la main invisible de Dieu qui l'avait fait, qui l'avait écrit. Jésus est entré dans son règne par la croix et il a dit clairement à ses disciples, une fois ressuscité, en prenant congé d'eux au moment de l'ascension, Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Le règne de Jésus est affirmé et nous y prenons part. Nous avons dans l'Épître aux Romains une sorte de définition du règne royaume de Dieu au sens C, qui est tout à fait remarquable au chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Et au verset 17, l'apôtre Paul, c'est dans une discussion sur les nourritures interdites ou permises, etc., et sur la communion fraternelle, et il dit « Car le royaume de Dieu », et on peut traduire donc le règne aussi bien que le royaume, hein, je vous l'ai dit, « Car le règne du royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Voyez, une définition du royaume de Dieu dans son état présent. Donc, au troisième sens que j'avais distingué, le royaume comme puissance qui nous porte vers l'accomplissement final, où la volonté de Dieu dans tous les sens sera pleinement réalisée. Voyez, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce que communique le Saint-Esprit, c'est déjà le royaume de Dieu. Voyez. Alors, cette complexité un peu débrouillée, j'espère que mon schéma vous est de quelque utilité, il faut signaler qu'une difficulté, alors nouvelle, par rapport à ce que je viens d'expliquer, surgit. Comme, vous voyez, ce n'est pas simple le thème du royaume de Dieu, du règne de Dieu, il y a une occasion de désaccord entre chrétiens évangéliques sur un point particulier de ce trajet, en quelque sorte, qui va jusqu'à la consommation, comme on dit, l'accomplissement du royaume de Dieu comme un état de volonté divine parfaitement réalisé. Il y a une complication. Certains chrétiens évangéliques logent entre le moment présent et le royaume de Dieu sous sa forme tout à fait finale, un royaume en quelque sorte intermédiaire, un royaume qui s'appelle classiquement le millénium dans la doctrine chrétienne, c'est-à-dire simplement 1000 ans. Le mot millénium veut simplement dire une période de 1000 ans. Un royaume donc appelé millénium qui, pour ceux qui l'affirment le plus fort en tout cas, n'est pas le royaume de Dieu selon Romains 14, 17, et n'est pas non plus le royaume final, mais qui est un stade avant la fin. Ce royaume appelé millénium peut se définir, me semble-t-il, de la manière suivante. C'est un règne de Jésus-Christ qui a un caractère extérieur, visible extérieur, parce que le règne actuel de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit, Romains 14, et donc qui n'est pas visible de l'extérieur, même s'il y a des signes, même s'il y a un certain retentissement dans la vie des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, c'est un règne qui est invisible. Or, le règne appelé donc millénium est un règne visible, externe de Jésus-Christ, qui se situe avant le règne final, c'est-à-dire avant le jugement dernier. D'autres chrétiens évangéliques ne croient pas qu'il faille prévoir un tel règne intermédiaire, un tel millénium. Et je crois qu'il faut dire les choses très, très simplement et très franchement. Dans notre Église, il y a liberté de conviction à ce propos. Il est assez probable qu'il y a parmi nous des gens qui ont des avis différents sur ce point précis. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable d'allumer une controverse. Par la grâce de Dieu, les choses se passent bien. Ceux qui ne sont pas d'accord sur ce sujet précis, dans notre Église, s'entendent sans controverse gênante. Je ne voudrais pas, par mon exposé, allumer des controverses. Et c'est un peu, d'ailleurs, dans cette pensée que j'ai finalement décidé de me contenter de cette séance aujourd'hui sur le sujet. À un moment, je me suis dit, j'ai tellement de choses à dire que je vais prendre 2 séances, prendre aussi celle du mois de mai. Puis je me suis dit non, finalement, ça risquerait d'échauffer un peu trop les esprits. Si quelqu'un souhaite une étude plus approfondie du sujet, ou disons que si quelques-uns souhaitent une étude plus approfondie du sujet, je pense que nous pourrions organiser un dimanche après-midi, une fois. Alors une séquence de 2-3 heures pour ceux qui seraient intéressés. Moi, je serais prêt à le faire. Mais je pense que pour le groupe assez nombreux que nous formons aujourd'hui, le mieux, c'est de dire, je fais une présentation assez brève, j'espère claire, des points principaux aujourd'hui. Ça suffira sans doute. Par la grâce de Dieu, nous avons appris à tolérer les différences d'opinion sur ce sujet qui doit être jugé secondaire. Pas sans importance du tout, mais quand même secondaire. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que dans le premier texte, le texte le plus ancien, après le Nouveau Testament, hein, dans l'histoire de l'Église, où il est question de différence d'opinion sur ce point précis, c'est dans les écrits de Justin Martyr, Saint Justin Martyr, au milieu du IIe siècle. Précisément, Justin Martyr montre que les deux opinions sont reçues dans l'Église, qu'il n'y a pas du tout d'exclusion de ceux qui ne pensent pas de la même façon. Je peux même préciser que notre Église était ce qu'on appelle, je vais l'expliquer dans un instant, le sens du mot, plutôt prémillénariste dans la première phase de son existence. Et ma grand-mère était prémillénariste, et ça se voit dans son livre, par exemple, quelle heure est-il à l'horloge d'Israël, qui a donc été pasteur de l'Église. Et moi, j'ai d'abord reçu un enseignement de type donc prémillénariste, je vais vous expliquer le mot, modéré. J'ai découvert l'autre position pendant mes études, les arguments de l'autre position, dite amillénariste, et ils m'ont convaincu. Alors, quand je suis revenu, j'en ai discuté avec mon père, qui a réétudié la question, qui finalement est arrivé très près de la même conviction que moi, en laissant juste un tout petit peu un point d'interrogation en marge sur certains détails, mais en gros, il a été convaincu. Mais, vous le voyez, il y a donc diversité d'opinion aussi selon la succession des temps dans l'histoire de notre Église, et personne ne devrait se sentir foncièrement gêné. Alors, je vous explique ces positions diverses qui existent. Il y a quatre grandes positions dans le monde évangélique, et toutes sont légitimes dans notre Église. Je ne pense pas qu'elles soient toutes bonnes, hein. J'ai une conviction, je vais l'expliquer, mais toutes sont légitimes. Il ne faudrait pas que quelqu'un se sente alors poussé vers la porte, parce que bon, moi j'ai une autre position que lui. Quatre positions, qui sont d'ailleurs très bien expliquées dans un petit livre schématique du pasteur Frédéric Buhler, B-U-H-L-E-R, qui est maintenant à la retraite depuis pas mal d'années, mais qui avait écrit ce petit fascicule lorsqu'il était pasteur de l'église baptiste de Mulhouse. Et il se trouve qu'il a la même conviction que moi, mais il fait un exposé là très, très neutre des quatre positions sur le sujet. Les quatre positions sont les suivantes. Je vais dans le sens de la distance peut-être maximale. Vous avez d'abord celle qu'on appelle... Bon, je crois qu'il vaut mieux que je change de feuille. Prémillénarisme ou la position prémillénariste, si vous prenez l'adjectif, dispensationaliste. C'est la position, sous une forme assez modérée, il faut le reconnaître, de M. René Pache. La position qu'il défend dans ses livres sur la doctrine de la fin des temps, en particulier le retour de Jésus-Christ, et que l'on trouve aussi dans pas mal d'articles du nouveau dictionnaire biblique qui a été réalisé sous sa direction. Monsieur René Pache, donc, qui a été le directeur de l'Institut biblique Emmaüs autrefois. Les prémillénaristes croient qu'il y a un millénium, donc un règne visible de Jésus-Christ qui doit durer 1000 ans. 1000 ans, c'est peut-être pas la durée tout à fait exacte, mais qui doit durer un espace de temps de cet ordre. Avant le jugement dernier, mais après le retour de Jésus-Christ. Le mot pré, dans prémillénariste, qui veut dire donc avant, signifie que les prémillénaristes croient que Jésus-Christ revient avant ce millénium. D'après le schéma, donc les choses vont continuer à s'aggraver dans le monde, il va y avoir une période très difficile, et le Seigneur Jésus va revenir et va établir ce règne qui va durer environ 1000 ans sur la terre, sur cette vieille terre, et puis après ça aura lieu le jugement dernier. Donc ils sont prémillénaristes parce qu'ils croient que Jésus vient avant. Et dispensationaliste, ça veut dire que c'est lié à un système d'interprétation globale de l'Écriture où Israël et l'Église restent entièrement séparés. Et alors, pour cette première thèse, donc préminéraliste dispensationaliste, le millénium a essentiellement un caractère israélite. Il est dans le plan de Dieu pour Israël. Plusieurs même pensent que les chrétiens n'iront une part que tout à fait extérieure, mais certains disent qu'ils seront les corps des fonctionnaires du roi, mais essentiellement ce sera un règne de Jésus-Christ comme roi des Juifs, au sens ethnique du terme, avec une séparation tout à fait nette entre Israël et l'Église. Cette conception, donc, dispensationaliste, est une conception qui n'a vraiment vu le jour qu'au XIXe siècle. C'est vers 1830 qu'elle a été conçue, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit infidèle à la Bible. Hein. Il y a certaines découvertes qui peuvent se faire tardivement du vrai sens de la Bible. C'est pas tellement probable, mais enfin, bon. Cette position, donc, se trouve aussi dans les notes de la Bible Scofield. La Bible Scofield est une Bible qui met en œuvre, dans toutes ses notes, l'interprétation dispensationaliste de l'Écriture. Deuxième... pardon, c'est de vous. Oui, alors il y a une continuité avec l'Israël aujourd'hui reconstitué. C'est vraiment la Jérusalem littérale, géographique, qui sera la capitale du monde, etc. Avec le temple reconstruit, avec des sacrifices qui reprendront, selon les passages d'Ézéchiel 40 et suivants, ainsi que je vais encore l'expliquer dans un instant. Deuxième grande position, prémillénariste, j'abrège, modéré ou classique. On peut être modéré avec, ou moins modéré dans toutes les positions. Hein. Ça dépend aussi un peu des tempéraments, mais disons que la deuxième position, c'est celle du prémillénarisme classique, qui croit comme la première que Jésus-Christ revient avant un millénium qui sera un règne visible de Jésus-Christ sur cette terre, avant le jugement dernier, mais qui ne pense pas qu'il faille faire de différence entre Israël et l'Église à ce propos, qui considère que les promesses faites à Israël se réalisent pour l'Église, qu'il y a une continuité du plan de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament, de telle sorte que l'Église est le prolongement d'Israël, que c'est l'Israël de Dieu, selon l'expression que l'on trouve à la fin de l'Épître aux Galates. Donc là, il n'y a pas de différence entre Juifs et chrétiens quant au millénium, et cela veut dire aussi que l'interprétation des paroles que l'on attribue au millénium peut être moins littéral que dans le premier cas. Dans le premier cas, c'est très très littéral. Dans le deuxième cas du prémillénarisme classique, on peut jouer de davantage de souplesse. On peut avoir une interprétation symbolique de certains éléments. Les prémillénaristes classiques, par exemple, ne pensent pas du tout que les sacrifices doivent recommencer au cours du millénium. Ce serait trop contradictoire de l'Épître aux Hébreux, qui dit que ces sacrifices ont été abrogés pour raison d'inutilité, donc vraiment, ça semble difficile d'imaginer qu'ils soient repris avec l'accord, l'approbation de Dieu. Et du coup, donc, le prémillénarisme classique peut interpréter moins littéralement certains passages. Alors, comme représentant bien connu de nous tous, on pourrait citer Monsieur Jules Marcel Nicole. Monsieur Jules Marcel Nicole est en France un représentant donc bien connu. Lorsque mon père a changé de position, M. Nicole n'a pas changé de position, lui, vers 1960. Donc, M. Nicole peut être un bon exemple dans le monde international. Sur la question, c'est un certain Ladd, George Ladd, qui a été sans doute le plus fameux des représentants du prémillénarisme classique aujourd'hui, disons au XXe siècle. Il est à la retraite, je pense qu'il est encore en vie, et certains savent peut-être que sa théologie du Nouveau Testament en 3 volumes a été publiée en traduction française, aux éditions Sapor et PBU. Donc, Ladd n'est pas inconnu du côté francophone. Il était un professeur américain. Troisième troisième position, la position post-millénariste. Alors, elle connaît des variantes, elle aussi, bien entendu, mais le trait caractéristique, c'est qu'elle considère que le millénium n'a pas lieu après le retour de Jésus-Christ, qui est donc lui avant, pré, mais que le retour de Jésus-Christ intervient après le millénium. Donc vous avez une affirmation d'un règne visible de Jésus-Christ sur la terre avant le jugement dernier, mais aussi avant le retour de Jésus-Christ. Pour les post-millénaristes, il y a donc une évolution de l'histoire du monde qui aboutit à un règne de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'est pas revenu encore. C'est un règne qu'il exerce en quelque sorte du ciel, mais sur la terre. Et puis il revient au terme de ce règne, et alors c'est aussi le jugement dernier, la résurrection finale, etc. Alors vous avez des versions différentes. Il y a eu une version qui a été importante dans l'histoire, et il y a eu pas mal de baptistes au XVIIe ou au XVIIIe siècle qui ont été dans ce sens-là, où c'était l'idée du succès de l'œuvre missionnaire. Grâce à l'expansion missionnaire, le monde entier va devenir chrétien, ce sera le règne de Jésus-Christ sur cette terre, et rendu visible puisque ce sera la majorité. Et donc c'est pour couronner cela que le Seigneur Jésus reviendra. Et ça a été un moteur de l'œuvre missionnaire, il faut reconnaître. Moi je pense que c'était une erreur, mais il faut reconnaître que ça a été psychologiquement un moteur, que ça a poussé les gens en disant voilà le royaume ou le règne visible de Jésus-Christ, nous pouvons contribuer à l'établir par notre témoignage et le monde entier va recevoir cette parole. Alors il y a eu aussi des versions par la suite, surtout à la fin du XIXe siècle, plus libérales, où ça s'est allié avec des idéaux socialistes. Il y a eu un socialisme chrétien qui a adopté ce thème post-millénariste. Par tous nos efforts, nous allons transformer la société et nous allons établir un règne de justice et de paix qui sera le règne de Jésus-Christ, où le sermon sur la montagne sera la loi que tout le monde respectera. Ça a été l'espoir de certains chrétiens sociaux, chrétiens socialistes de la fin du XIXe siècle, et entre autres d'un baptiste d'ailleurs, qui n'était pas un baptiste évangélique dans notre sens, il s'appelait Rauschenbusch. C'était un Américain, bien que son nom soit germanique, Walter Rauschenbusch, et lui avait une version socialisante, pourrait-on dire, socialiste même, de cette espérance post-millénariste. Alors à cause de ça, le post-millénarisme, qui a été important, hein, Spurgeon disait qu'il hésitait entre post-millénariste et pré-millénarisme classique. Il n'avait pas une opinion fixée dans son commentaire sur le psaume 72, il avoue hésiter. Donc, ce post-millénarisme qui a eu de l'importance a connu une éclipse au XXe siècle. Il y a eu très peu de gens. Quand je faisais mes études, il y avait presque un seul théologien connu qui adoptait le post-millénarisme. Il faut reconnaître que depuis 20 ans, 20, 30 ans, il y a un certain regain de cette position. Et en particulier, M. Pierre Courtial, avec qui j'ai tellement collaboré pour Ictus, s'est trouvé en sympathie avec une certaine forme, en tout cas, de post-millénarisme dans ces dernières décennies. Bon, il n'a jamais vraiment voulu en discuter avec moi, donc je ne sais pas très bien quels sont les arguments, mais voyez, c'est une position qui existe dans notre monde. Et puis la quatrième position, alors, c'est la position amillénariste. On pourrait dire aussi non-millénariste, qui estime qu'il n'y a pas une base biblique suffisante pour qu'on affirme un règne de Jésus-Christ visible sur cette terre avant le jugement dernier. Et qui interprète autrement les passages que les autres invoquent dans le sens de leur croyance millénariste. Oui. Et c'est cette position qui m'a convaincu. J'avais donc été influencé ici, aussi même, et j'ai fait mon catéchisme avec Monsieur Nicole. J'avais été influencé par la position pré-millénariste classique, mais lorsque j'ai rencontré les arguments amillénaristes, ils m'ont semblé plus forts, plus bibliques. Ça a été ma conclusion personnelle. Et un livre a joué un grand rôle pour moi, c'est le rôle d'un pasteur d'Irlande du Nord à l'époque, Grier, G-R-I-E-R. Et son livre a été traduit en français, j'ai même donc écrit une petite préface, et il est disponible donc, il s'appelle en français « Le grand dénouement », où il expose les arguments. Alors il y a, dans le débat, trois grands types d'arguments qui s'échangent. Le principal peut-être, en tout cas ce à quoi nous allons donner un petit peu plus de temps, concerne le passage où les 1000 ans apparaissent. De manière, je crois, assez générale, les prémillénaristes concéderont que s'il n'y avait pas ce passage, il leur serait difficile d'affirmer la doctrine du millénium. Il y a un texte qui, donc, leur semble prouver qu'un règne de Jésus-Christ aura lieu avant le jugement dernier, et il faut l'examiner. Il faut voir si vraiment c'est l'enseignement de ce passage. C'est un texte qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 20. Dans quelques instants, nous allons le lire. Je vais vous le lire en traduction très, très littérale, annonnée, pour que vous saisissiez bien ce qu'il y a dans l'original. Parce que bien sûr, il faut essayer, quand il y a une controverse, de retrouver l'original des textes dont on débat. Deuxièmement, bien, il y a tous les autres textes bibliques, Ancien et Nouveau Testament. Quelles indications peut-on en tirer quand on les prend comme ça, embrasser? Et puis, troisième tiroir dans l'échange des arguments, il y a les arguments de réflexion. Quel est le sens? Quel est le rôle d'un tel millénium s'il a sa place dans le plan de Dieu? Quelles sont les objections qu'on peut élever? Donc là, on prend un peu de distance par rapport au texte même pour essayer de réfléchir à leur portée, à leur signification. Alors je vais résumer, bien sûr brièvement, hein, je résume aujourd'hui ce débat. Alors dans l'Apocalypse, donc au chapitre 20, nous avons, vous vous rappelez, l'annonce de la chute de la grande Babylone, la grande prostituée qui singe la cité de Dieu, épouse de l'agneau, il y a l'annonce de sa chute, il y a l'apparition du cavalier qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs au chapitre 19 et qui remporte sa victoire. Et puis au chapitre 20, donc, le texte se lit de la manière suivante. Alors je vous le lis de manière donc très annonnée. « Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne, littéralement, sur sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, le serpent originel, on pourrait dire que c'est un renvoi au récit de la Genèse, hein, lequel est diable et le Satan. Et il le lia 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, et il ferma à clé, et mit un sceau dessus, afin qu'il ne séduisît plus les nations ou les païens, le mot là aussi peut se traduire des deux façons, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être délié un peu de temps. Un temps bref, micron, le mot que nous avons dans micro. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et, il y a un « et » dans l'original, peut-être est-il simplement d'insistance, les âmes des décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête, ni son image, et n'ont pas reçu la marque, le caractère, sur leur front, la marque de la bête, et sur la main. Et ils vécurent, ça comme c'est un point important dans le débat, je signale donc qu'il s'agit de la forme dans le temps qu'on appelle aoriste, c'est-à-dire indéfini en fait. Le mot aoriste veut dire indéfini, le temps qu'on appelle aoriste en grec. C'est simplement le verbe vivre, un verbe très, très ordinaire, ils vécurent. avec un temps donc qui est susceptible de prendre pas mal de nuances différentes. C'est pour ça qu'on l'appelle indéfini. Alors le terme n'est pas exactement « il revint à la vie » comme dans beaucoup de traductions. On peut estimer que dans le contexte, puisqu'ils ont été décapités, etc., c'est le sens qui est le plus normal, mais littéralement c'est « ils vécurent ». C'est une forme donc du verbe « vivre ». Et ils régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas, même verbe, même forme, jusqu'à ce que soient accomplis les 1000 ans. Celle-ci, la résurrection, la première. Heureux et saint, celui qui a part à la résurrection, la première. Sur ceux-ci, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui les 1000 ans. Et lorsque les 1000 ans seront accomplis, le Satan sera délié hors de sa prison, et il sortira séduire les nations, ou les païens, de nouveau, qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler en vue du combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils monteront, ou ils montèrent, littéralement, c'est toujours cet indéfini, hein, sur le plat de la terre, l'espace de la terre, et ils encerclèrent la forteresse des saints et la ville bien-aimée, et un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où, sous-entendu, se trouve, parce que là il n'y a pas de verbe, la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà le qui est sans doute au centre des débats entre ceux qui ont les positions diverses que nous venons de signaler. Les prémillénaristes disent, vous voyez, c'est évident. C'est évident, après le chapitre qui parle du retour du Seigneur, au chapitre 19, tout le monde en est d'accord, il est question du retour du Seigneur. Nous avons un espace de 1000 ans qui s'intercale. Pendant cet espace de 1000 ans, Satan est lié, jeté dans l'abîme, de telle sorte qu'il ne peut plus égarer, séduire les nations de la terre comme il a fait. Et pendant ce temps, ceux qui sont à lui règnent sur cette terre. Il y a une première résurrection qui a lieu avant les 1000 ans. C'est la résurrection donc de ceux qui sont à Jésus-Christ et qui vont bénéficier de son règne. Ils vivent à ce moment-là, quand le Seigneur Jésus revient, et ils participent à son règne en lui étant associés, ils règnent avec lui. Et puis il y a une deuxième résurrection alors, qui est la résurrection générale de tous les morts pour le jugement dernier, comme il a été annoncé dans d'autres passages, la résurrection de tous les humains, des injustes qui recevront à ce moment-là leur châtiment. Nous verrons dans d'autres séances la question du châtiment éternel. Disent-ils, c'est vraiment tout à fait clair. Cela implique, vous vous en rendez compte, donc, que le schéma du millénium lui-même est un schéma assez troublant, où ce règne se déroule dans les meilleures conditions, puisque Satan ne peut plus séduire les nations, mais où ça se termine quand même très mal, puisque Satan est délié pour un petit peu de temps à la fin de ces 1000 ans, et à ce moment-là, alors, toutes les nations de la terre se laissent séduire à nouveau et attaquent la forteresse des saints, la ville bien-aimée. C'est à ce moment-là, alors, qu'arrive vraiment la fin finale, que le feu descend du ciel pour les dévorer. Ça, cet élément fait aussi partie de ce qu'on est obligé de prendre en compte lorsqu'on cherche le sens de l'ensemble de la chose. Si ce texte est le seul sur lequel peut s'appuyer la doctrine du millénium, donc d'un règne visible de Jésus-Christ avant le jugement dernier, On peut observer, là je commence à dire l'avis des autres, hein, des amillénaristes, on peut observer qu'il est périlleux de fonder une doctrine sur un seul passage, et surtout sur un seul passage d'un livre comme l'Apocalypse. Le genre du livre de l'Apocalypse est un genre chiffré, très délibérément. Ça fait partie des caractères littéraires de cette œuvre. Alors, il faut être vraiment sûr qu'il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre et que le sens est tout à fait clair lorsqu'on fonde une doctrine qui n'a pas de soutien suffisant ailleurs sur un passage quand c'est l'Apocalypse qui est ce passage. Si on peut vraiment être tout à fait sûr, d'accord, mais peut-on l'être vraiment ? Les non-millénaristes font observer qu'il faut quand même que les pré-millénaristes glissent dans leur lecture de ce passage des choses qui n'y sont pas dites expressément. Ils mentionnent ce passage à propos d'un règne terrestre de Jésus-Christ. Mais il n'est pas dit que ce soit sur la terre. Rien dans ce passage ne dit que ce règne se déroule sur la terre. L'abîme dans lequel est jeté le Satan est un abîme donc qui se situe dans le domaine spirituel. Donc ça, c'est un élément qui est rajouté. Et puis, plus précisément encore, c'est dans leur corps que ceux qui régneront avec le Christ pendant ces 1000 ans sont censés se trouver pendant cette période. Or, rien ne dit non plus que ce soit dans le corps qu'il règne. Il nous est dit « je vis les âmes ». Alors c'est quand même assez étrange, « je vis les âmes » s'il s'agit de gens ressuscités qui ont un corps visible sur la terre. Donc c'est un élément qui quand même là vient s'insérer, surtout qu'il y a un seul autre passage dans le livre de l'Apocalypse où cette expression « je vis les âmes » est employée, c'est au chapitre 6, verset 9, et là il s'agit du ciel, il s'agit précisément des âmes de ceux qui ont été mis à mort à cause du témoignage de Jésus, comme ici, et qui attendent le retour du Seigneur, qui lui disent « jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang, etc. » Et il leur est dit de se tenir tranquille jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service soit complet. Donc ça se passe dans le ciel, c'est vraiment là des âmes qui n'ont pas encore leur corps de résurrection. C'est le seul autre passage où il y a « je vis des âmes ». Donc vous voyez, tout ne colle pas d'emblée parfaitement avec la lecture prémillénariste. Je ne dis pas qu'elle soit rendue impossible, mais enfin, ça ne joue pas si facilement. Est-ce que cette lecture s'impose sur d'autres points ? Est-ce que vraiment le fait que le chapitre 20 succède au chapitre 19 implique que c'est un événement qui doit faire suite au retour de Jésus-Christ ? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une séquence là ? Pas forcément, parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a des retours en arrière. Le plan de l'Apocalypse est compliqué, les spécialistes en débattent, on peut penser qu'il y a plusieurs cycles qui se succèdent, et donc on revient plusieurs fois en arrière, mais en tout cas, nous pouvons voir qu'il y a certains retours en arrière. Entre le chapitre 11, qui parle des deux témoins, qui parle de choses qui se situent au moins dans la dispensation présente, et puis le chapitre 12, on voit bien qu'il y a un retour en arrière, puisque le chapitre 12 nous parle de la venue de Jésus-Christ, la première venue de sa naissance. C'est l'accomplissement de la promesse de la naissance de l'enfant de sexe masculin qui était promis par les prophètes. Donc, il y a un retour en arrière. Et deux traits, dans le texte même, semblent aller, me semble-t-il, très fort dans le sens de cette idée, que nous avons un retour en arrière au début du chapitre 20. Il y a d'abord le parallélisme justement avec ce chapitre 12. C'est le même langage, il est question de la même façon du diable, le serpent ancien, et aussi d'ailleurs d'une certaine liberté qu'il a pour un peu de temps. Donc il y a des schémas qui se retrouvent par rapport au chapitre 12. Ça c'était le grand argument d'un de mes professeurs en Angleterre. Et puis d'autre part, il y a quelque chose que j'ai découvert assez récemment, je dois dire, mais qui m'a impressionné. Vous avez des citations qui apparaissent mieux dans le texte original, parce que là on reconnaît les termes repris même dans la Bible, des citations de l'Ancien Testament qui sont faites, et des citations en particulier du passage sur Gog et Magog en Ézéchiel 38-39. Donc, dans le texte que nous avons lu, vous avez vu que la grande révolte finale après les 1000 ans, cette grande révolte finale est présentée comme celle de Gog et Magog. C'est une façon de nous dire, voilà, c'est comme ça que s'accomplit la parole sur Gog et Magog dans Ézéchiel. Il me semble qu'en tout cas, c'est la manière la plus normale de comprendre cette référence Gog et Magog. Or, à la fin du chapitre 19, il y a aussi des éléments qui viennent de ces mêmes chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. Des références qui sont indiquées comme citations dans le Nouveau Testament grec que j'ai sous les yeux, qui viennent de ces mêmes chapitres-là, en particulier nos chapitres 39, verset 4, verset 17 à 20, dans les versets 17 et suivants du chapitre 19. Alors, si vous comprenez, au chapitre 19, comme au chapitre 20, pour la fin de la période, vous avez les mêmes textes de l'Ancien Testament qui sont cités, ça suggère qu'il y a eu un retour en arrière, puisque la fin de 19 aboutit à ce qu'Ézéchiel 39 a annoncé, comme les références, les citations faites le montrent, et de même, la fin du passage du chapitre 20 aboutit aussi à Ézéchiel 39, Gog et Magog. Ça suggère donc que 20 a repris en arrière pour arriver finalement au même point. Et on peut relever que du coup, il est moins bizarre qu'il y ait cette grande révolte finale. Ça correspond à beaucoup d'autres textes à ce moment-là. Et il y a la confirmation de beaucoup d'autres textes. Avant le retour de Jésus-Christ, au terme de l'histoire, il y a ce paroxysme du mal, ce déchaînement qui est annoncé de diverses façons. La deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, par exemple, c'est ce qui est évoqué aussi sous le nom de grande tribulation. Donc, nous sommes en terrain familier, c'est attesté ailleurs dans l'Écriture. C'est Gog et Magog, donc des arguments qui sont, me semble-t-il, assez forts dans le sens de l'idée d'un retour en arrière au début du chapitre 20. Mais alors, comment lire à ce moment-là? Comment lire ce passage? Je vous donne presque ma conclusion, surtout que je vois l'heure qu'il est. Ma conclusion sur la bonne manière de lire, je crois que ce chapitre 20, dans la part que nous avons lue, veut nous indiquer les coulisses de l'histoire qui a été racontée dans les chapitres précédents. Et montrer en particulier comment, du point de vue de Dieu, comme il voit les choses, il y a inversion des apparences. Les apparences du jeu terrestre de l'histoire sont en fait trompeuses et la réalité telle que Dieu la voit est bien différente. Sur la terre, Satan semble avoir libre cours et il s'en passe des choses horribles sur cette terre depuis la première venue de Jésus-Christ. En réalité, révèle ce chapitre, Satan est limité. Le fait d'être lié ne signifie pas qu'il soit inactif, mais limité. Lié, c'est une image qui peut se prendre de diverses façons. Et on peut la prendre dans le sens de la limitation de son activité. Il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait. Il ne peut pas aller au-delà de sa corde. Il est lié. Jean 10, verset 31, nous dit que lors de la première venue de Jésus-Christ à la croix, il a été jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde a été jeté dehors. Il a été jeté. Il est jeté dans l'abîme, cette zone spirituelle de laquelle il agit, et il est limité. Il ne peut pas empêcher l'évangélisation du monde. Jusqu'à ce moment-là, il régnait en quelque sorte comme sans partage sur les nations. Toutes les nations étaient vouées à l'idolâtrie. Et Dieu s'était choisi Israël, et en Israël seulement, il avait mis sa vérité. Mais à partir de la première venue de Jésus-Christ, avec la victoire remportée sur Satan, il ne peut plus séduire les nations de la même façon. Et du coup, l'évangélisation du monde se poursuit.
Donc Satan
Exactement. Jésus explique que s'il fait des délivrances, c'est parce qu'il a vaincu Satan, qu'il a été capable de lier cet homme fort qui tenait sous sa coupe les pauvres âmes. Et exactement. Saint Augustin déjà avait mis d'ailleurs ce texte en rapport avec Apocalypse 20. Pendant cette période qui s'ouvre avec la première venue de Jésus-Christ, alors que Satan nous semble, hélas, bien trop libre et actif, il nous est révélé qu'en fait, il ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu lui assigne et il ne peut pas empêcher l'évangélisation du monde. Avec un avertissement. Il y aura un bref moment où cette limite sera relâchée. Et c'est ce qui correspond à la grande tribulation, à l'Antichrist, à ce moment alors de paroxysme. Avant la venue du Seigneur, oui, Dieu permettra qu'il y ait ce déchaînement. Vraiment, le mot est tout à fait exact. Voyez, ce déchaînement. Et nous verrons la différence, justement. C'est cela, me semble-t-il, qu'implique le texte. Avec l'annonce qu'un feu descendra du ciel, le Seigneur Jésus détruira l'impie par le souffle de son apparition. Voyez. Et ça ne durera qu'un peu de temps. Voyez. Car si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne pourrait être sauvé. Mais Dieu abrégera ces jours à cause des élus. Voilà ce que Jésus a annoncé. Voyez. Donc, voyez, ça colle très bien, là. Le règne, c'est un règne apparemment dans le ciel. Ceux qui ont été les perdants sur la terre, qui ont été mis à mort, je vis les âmes de tout cela. Ils règnent avec Christ. Ils ne sont pas, donc, les perdants au fond de la tombe. C'est l'assurance du règne avec Christ qui leur est donnée pendant toute cette période, heureux dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur, comme dit un autre passage de ce même livre de l'Apocalypse. Et alors, il faut expliquer le « ils vécurent ». « Ils vécurent » est le thème de la première et de la, donc du même coup, deuxième résurrection. Il y a un passage, et c'est aussi Jean qui nous le livre, qui me semble éclairer de la manière la plus claire, ce thème des deux résurrections. Dans Jean 5, dans le grand discours de Jésus en Jean 5, Jésus dit que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. Et Jésus, au verset 25, énonce assez clairement le thème de la résurrection. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et au verset 28, juste un peu après, « Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui seront dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Le parallélisme des versets 25 et 28-29, ici en Jean 5, établit très clairement le schéma de deux résurrections. Il y a une première résurrection, c'est maintenant, dit Jésus, où les morts, spirituellement, entendent la voix du Fils de l'homme et accèdent à la vie éternelle. Ils vivent. C'est la première résurrection. Mais, bien sûr, il y en a une autre, qui est la résurrection générale des corps, avec les deux catégories cette fois. Ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle et ceux qui ressuscitent pour la mort éternelle, le jugement. Alors, si vous acceptez ce schéma des deux résurrections, à mon avis, Apocalypse 20 se lit sans aucun mal. Ceux qui vivent et règnent avec le Christ sont ceux qui ont eu part à la première résurrection, qui ont connu par la foi la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, ce sont les sauvés. Oui. Et dès leur mort, même avant la deuxième résurrection, qui est la résurrection finale, la résurrection des corps, dès leur mort, ils ont part au règne du Christ. Ils sont avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, ils règnent avec lui. Oui. En revanche, donc pour la deuxième résurrection, alors on ne peut pas dire la même chose, parce que aussi les réprouvés ressuscitent dans cette deuxième résurrection, qui est celle des corps. Et ce qui me semble confirmer dans le texte que c'est bien là le sens, c'est le jeu entre première résurrection et deuxième mort. Oui. Ceux qui ont part à la première résurrection, ce sont ceux qui échappent à la deuxième mort. Alors que ceux qui auront part à la deuxième résurrection, ce sont ceux qui auront connu la première mort. Vous avez ce schéma en croisillon qui, à mon avis, est remarquablement clair. La première résurrection, qui est la résurrection de la foi, on passe de la mort à la vie, nous fait échapper à la deuxième mort, qui est le châtiment éternel. Alors que la deuxième résurrection, Jean 5, 28, 29, correspond à la première mort physique du corps. Donc, il me semble que les choses se lisent bien comme ça, et du coup, je dis qu'au minimum, l'interprétation millénariste de ce texte de l'Apocalypse n'est pas assez assurée face à sa rivale pour dire il faut croire à l'existence d'un millénium. Si c'est le seul passage sur lequel on se base, alors ça ne suffit pas. Mais est-ce que c'est le seul passage? Alors, deuxième grande catégorie, j'ai bien dit que j'irai vite à ce propos, donc je prends juste une ou deux minutes. Deuxième grande catégorie, les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. En fait, pour l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de passages, de textes qui sont invoqués. Pour l'Ancien Testament, ce sont surtout les dispensationalistes qui se trouvent opposés aux autres. Avec les préliminaristes classiques, il n'y a pas autant de différence. Mais il y a quand même quelques passages, Ésaïe 11, Ésaïe 65 en particulier. Tout dépend de la possibilité de ne pas comprendre littéralement ce qui est dit, mais de le transposer. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste de le faire? Si on l'interprète dans le sens amillénariste, en particulier, un peu aussi des deux autres, il faut dire que ce n'est pas sous cette forme exacte que les choses vont s'accomplir, mais en fonction du décalage, de la transposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament et les réalités finales. Est-ce que c'est légitime de le dire? Il me semble que c'est légitime de le dire sur la base de deux considérations. Je ne développerai pas plus, je ne veux pas développer plus. Première considération, si vous essayez de prendre ces prophéties de manière strictement littérale, vous tombez dans la contradiction. Contradiction entre elles ou contradiction très nette avec certains passages. C'est le cas pour les sacrifices dans les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel. Là, les prémillénaristes dispensationalistes sont très gênés. Surtout qu'il est dit que le prince qui régnera offrira des sacrifices pour son propre péché. Alors, ce prince, ça ne peut être que Jésus-Christ, ou vraiment c'est très artificiel de dire qu'il doit y en avoir un autre, aucun passage ne suggère un autre, et il ne peut pas offrir de sacrifice pour son propre péché, puisqu'il n'a pas de péché. Donc, voyez, ça c'est la première considération. Si on veut les prendre de manière strictement littérale tous, on tombe dans des difficultés inextricables. Deuxième considération, comment le Nouveau Testament les interprète-t-il? Ces passages ne sont pas tous cités dans le Nouveau Testament, mais un bon nombre sont cités. Et entre autres, Ésaïe 11, Ésaïe 65 aussi. Je vous invite à faire une étude systématique. Vous verrez qu'ils sont pratiquement tous interprétés avec transposition, qui sont appliqués à la vie de l'Église et à l'état final, et non pas à un millénium. Pour Ésaïe 65, c'est... Le passage commence par « Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». Et la citation est faite, non pas au chapitre 20 de l'Apocalypse, mais au chapitre 21, que les prémillénaristes reconnaissent comme étant un chapitre pour le règne final, après le jugement dernier. Ça se situe d'ailleurs après le jugement du grand trône blanc. Donc, vous voyez, je pense que, quant à ces citations, nous pouvons avoir... mais il faut faire une étude fouillée pour en être tout à fait persuadé, une bonne raison. Et dans le Nouveau Testament, il est reconnu par nombre de prémillénaristes qu'il n'y a pas de passage dans le Nouveau Testament, en dehors de l'Apocalypse, qui donne une indication nette en faveur du millénium. Alors, qu'est-ce qui reste? Troisième et dernière catégorie, puis je termine par là. Nous avons la raison d'être du millénium s'il y a un millénium. Que disent les millénaristes? Ils disent en général deux choses. Le millénium est nécessaire pour montrer que Dieu règne sur cette terre, que les promesses qu'il a faites s'accomplissent d'une façon véritablement terrestre, puisqu'il est question de la terre, dans beaucoup de prophéties. Et puis d'autre part, ils disent, c'est aussi, puisqu'il y aura une grande révolte à la fin, le moyen de montrer que le cœur de l'homme est désespérément mauvais, et que même dans les conditions idéales d'un règne de justice et de paix, il se révolte encore contre Dieu. Alors, à cela, je réponds de la manière suivante. La première considération est valable contre certaines formes d'amillénarisme, qui ne pensent qu'au ciel pour le royaume, pour le règne. Mais une forme en tout cas meilleure, corrigée je crois, c'est surtout chez les luthériens qu'il y a eu ce dérapage, une forme meilleure, c'est, me semble-t-il, celle qui souligne la nouvelle terre en même temps que les nouveaux cieux. Nous attendons une nouvelle terre, après le jugement dernier, une nouvelle terre où la justice habitera. Nous aurons un corps, c'est-à-dire un organe adapté à une terre, et c'est là que s'accompliront effectivement de façon terrestre toutes les promesses, en plénitude. Et pas seulement pour une période limitée, mais à toujours. Ces promesses n'ont jamais d'ailleurs d'indication de limite dans le temps. Et puis en ce qui concerne la démonstration, on peut dire qu'elle a été faite. Elle a été faite, car l'homme a vécu dans les conditions idéales au jardin d'Éden. C'était parfait, et il n'avait même pas donc de malice dans le cœur. Pourtant, il est tombé, il s'est révolté. Alors la démonstration n'a plus besoin d'être faite encore dans cet état final. Vous comprenez quelle est la conclusion à laquelle j'arrive. Je réitère cependant l'expression de l'exhortation que j'ai eue au début. Nous devons nous tolérer dans nos différences sur de tels points. Je ne veux pas du tout imposer à quelqu'un qui ne serait pas convaincu par l'Écriture de ce que je dis, de suivre la même opinion. Continuons l'acte de nous saluer les uns les autres dans ce qui demeure la même espérance fondamentale. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Voilà, merci. Alors, si quelqu'un donc souhaite approfondir le débat, etc., on pourra prévoir dans l'avenir un dimanche après-midi.